Direction MicroCity à Neuchâtel, à la rencontre de mon invité. Ce pôle d'innovation est aussi un incubateur de start-up. Je m'annonce à l'entrée et prends les escaliers. Sur le chemin, je croise deux jeunes hommes, mes interlocuteurs, sans savoir qu'il s'agit d'eux. S'ensuit alors un petit moment d'hésitation. Ils m'interpellent. Je suis bien la personne avec qui ils ont rendez-vous. Ils rebroussent chemin, nous passons une porte, puis nous nous dirigeons vers la salle où nous nous installerons. L'ambiance start-up y est bien présente. Chaises de jardin et baby-foot font notamment partie du décor. À la tête de l'entreprise du jour, trois jeunes hommes âgés de moins de 30 ans. Leur ambition n'est pas uniquement entrepreneuriale ni commerciale, elle a aussi une portée sociale et écologique. Bien qu'à Neuchâtel, physiquement, le récit me transporte en Afrique subsaharienne où des millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Ils ont peut-être trouvé la solution, ou plutôt une alternative à l'énergie solaire et à l'éclairage au kérosène. Il s'agit d'une batterie écologique et à bas coût qui fonctionne avec une réaction électrochimique. Ce soir, nous accueillons l'un des cofondateurs et responsables techniques et développement de Highlight, David Lamblay, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Anastasia Lirti.
Nous allons commencer cette émission par votre parcours professionnel. David Lamblay, vous avez 28 ans, vous êtes ingénieur microtechnique, diplômé de l'EPFL. Dans le cadre de vos études, vous avez fait des échanges à l'étranger, dont un aux États-Unis, à la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Là, vous découvrez la technologie qui vous permet de développer par la suite vos batteries. Racontez-nous dans quelles circonstances ça s'est passé.
Alors, tout à fait. Donc, c'est dans le cadre de mon projet de master de l'EPFL. Donc, j'avais cette motivation de faire des projets dans le domaine de l'énergie, et plus précisément dans les batteries. Et grâce à un ancien superviseur, j'ai pu faire ce projet de master au Berkeley Lab. Et c'est dans le cadre de ce projet-là où j'ai bossé pendant presque une année sur ce projet de master. Donc, la technologie a d'abord été inventée par mon ancien superviseur, Mike Tucker, qui était mon superviseur. Et ensemble, on a continué à développer la technologie, pousser plus loin. Et qu'après, j'ai un peu, entre guillemets, importé ici en Suisse.
Lui n'a pas souhaité développer ou la garder pour lui. Elle l'a donné comme c'était un cadeau.
Alors, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que après mon travail de master, j'ai été engagé comme ingénieur à l'EPFL et j'ai continué à travailler avec Mike en parallèle de mon travail de l'EPFL. Après, j'ai ensuite amené ce projet à un programme d'entrepreneuriat. Et petit à petit, c'est devenu un projet de start-up. Et Mike, il est bien occupé par son travail de chercheur au Berkeley Lab et se voyait plus dans une position de conseiller dans la start-up. Et il a toujours un pied aujourd'hui dans la start-up comme conseiller.
L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui faisait partie de votre plan de carrière?
Alors, pas plus que ça. Je dirais que c'est vraiment ce projet-là qui m'a plongé dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment ce projet qui, durant mon projet de master au Berkeley Lab, dans lequel ce projet-là m'a motivé de plus en plus. Et après, j'avais vraiment envie de sortir ce projet-là hors du labo, d'amener ce projet-là sur le terrain en Afrique, de pousser le projet plus loin. Et c'est au travers de ce projet-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat et la vie des startups.
Alors, on l'a dit en introduction, vous n'êtes pas le seul à porter ce projet. Comment s'est fait la rencontre avec les deux autres cofondateurs?
Alors, premièrement, c'était dans ce cours de Business Concept, donc c'est un cours d'entrepreneuriat proposé par InnoSuisse. C'est là que j'ai rencontré Jonathan Fiorentini et Monica Morales, qui est aujourd'hui comme conseillère et pas cofondatrice. Et c'est là que c'est vraiment, en fait, le projet est passé d'un projet de recherche à un projet d'entreprise, d'un projet de start-up. Et après, donc, on a aussi gagné, en fait, ce projet-là a été élu par le jury comme meilleur business concept à la fin de ce cours d'entrepreneuriat, ce qui nous a aussi motivé à continuer. Et après, à la fin de ce projet-là, on cherchait à intégrer aussi une personne qui avait une forte expérience avec l'Afrique. Et j'ai repris contact en fait avec un ancien pote de l'IPFL que j'ai rencontré à un festival d'entrepreneuriat social qui s'appelle Good Festival, à Lausanne, un peu plus tôt. J'ai repris contact avec lui sur Facebook. On a commencé à discuter du projet. Puis à ce moment-là, il était en Tanzanie. Donc après, lui, il a commencé un peu à regarder en fait le besoin sur place par rapport à ce projet-là. Je lui ai ensuite envoyé des prototypes sur place. Il a commencé à faire des démos avec des gens sur place. Et petit à petit, en fait, il a été passionné par le projet. Et après, petit à petit, il a été intégré dans le projet. Et quand on a fondé vraiment l'entreprise, on a fondé les trois, Jonathan, Briac et moi-même. Et aujourd'hui, Briac, c'est vrai que c'est lui-même qui a repris le lead du projet, qui est maintenant donc CEO.
Votre entreprise est donc une start-up. Votre produit, la batterie, est encore un prototype. Vous en avez développé plusieurs avant d'arriver au modèle actuel.
Oui, alors il y a eu, je dirais, le premier prototype proof of concept qui avait déjà été fait au Berkeley Lab. Après, on a continué à faire toute une série de prototypes. Et avec chaque prototype, avec son lot d'améliorations, parfois on rebrousse chemin arrière parce qu'on remarque qu'on voulait faire des améliorations qui ne l'étaient pas, etc. Donc il y a une dizaine de prototypes en tout, avec à chaque fois des améliorations, que ce soit au niveau des performances, que ce soit dans la facilité d'utilisation pour les utilisateurs, etc.
Nous allons tout de suite mieux comprendre comment fonctionne votre batterie. Mais avant cela, le prototype, vous l'avez testé en Tanzanie en 2017 et 2018. Jonathan Fiorentini, l'un des cofondateurs en charge des aspects financiers et administratifs de l'entreprise, nous explique pourquoi les essais se sont déroulés dans ce pays.
Sortie de boîte.
Alors, il y a plusieurs aspects qui nous ont fait choisir la Tanzanie. La première chose, c'est que la Tanzanie est un pays relativement stable au niveau politique. On a aussi le fait qu'il y a un grand marché. Par ailleurs, notre cofondateur, qui est maintenant le CEO, Briac Bart, a eu de l'expérience en Tanzanie, a vécu en Tanzanie, parle Swahili. Donc, c'est un peu notre Africain blanc. Donc, c'est vraiment un endroit qui, pour nous, est stratégique parce qu'on a des contacts sur place. Et si la technologie fonctionne suite à nos ventes pilotes, on pourra plus facilement déployer le projet à plus grande échelle.
Alors, ce projet, l'appareil en lui-même, David, c'est vous qui allez nous le présenter. Alors, comment on fait pour fournir de l'électricité à un coût très très bas et en plus quelque chose qui est facile d'utilisation, qui est sain pour l'environnement? Comment on s'y prend? C'est quoi le truc?
Alors, on est parti sur le développement d'une technologie de batterie à base de fer. Pourquoi le fer? Parce que le fer, c'est un des matériaux les plus abondants et bon marché sur Terre. Un des matériaux, je dirais, électroactifs les plus abondants et bon marché sur Terre. Et donc, on décharge, en fait, électrochimiquement ce fer pour en sortir des électrons pour générer de l'électricité pour charger ce téléphone portable. Donc, pratiquement, c'est une sorte de machine espresso pour générer de l'électricité en déchargeant du fer.
Donc ça veut dire que là, on a une boîte verte qui mesure une dizaine de centimètres de haut, qui coûte à peu près 12 dollars, c'est juste?
Exactement, donc on aura le produit qui sera vendu une dizaine de dollars, donc accessible même pour les plus pauvres, et dans lequel on va pouvoir insérer les consumables.
Donc là, ça veut dire que, alors là, c'est en deux parties déjà. Exactement. Vous avez soulevé la partie du haut de la base et puis il y a un petit clapet qui s'ouvre.
Exactement, donc on a un petit clapet qu'on peut ouvrir, dans lequel on insère les consommables. On peut fermer et après, on a aussi donc, le sel de fer qui sera mélangé à l'eau. On peut verser au-dessus de la batterie où il y a donc un petit réservoir. Et la solution va couler goutte à goutte dans les cellules. Et dans ces cellules, on aura une réaction électrochimique qui va se faire. Et c'est cette réaction électrochimique qui génère de l'électricité et qui permet après d'alimenter notre petite lampe LED ou charger un téléphone portable.
Sortie de boîte.
On vient de l'entendre, le courant produit par votre batterie permet d'alimenter une lampe ou recharger un téléphone portable. Le Natel en Afrique, c'est un véritable enjeu.
Oui, tout à fait. Alors, je dirais que la téléphonie mobile en Afrique a complètement explosé ces 20-30 dernières années, enfin ces 20 dernières années plutôt. Et on est passé en juste quelques années, à personne n'avait de téléphone portable, à tout le monde a un téléphone portable. Et aujourd'hui, en Afrique, 90% des gens ont un téléphone portable. Et c'est vrai que ça a même, je dirais, une importance même encore plus grande que pour nous en Europe, dans le sens où les gens vont pas seulement utiliser le téléphone portable pour juste communiquer, mais ils vont l'utiliser pour faire payer des produits sur le marché, ils vont l'utiliser pour faire des micro-paiements. Et il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de compte bancaire, mais qui ont un compte, une application bancaire sur un téléphone portable sur laquelle ils mettent tout leur argent.
Donc, d'où l'importance qu'ils soient bien chargés. À l'heure actuelle, ce n'est pas toujours simple, comme certains n'ont pas accès au courant, à l'électricité. Comment font-ils pour recharger leur natel?
Tout à fait. Donc, comme vous le dites, 90% des gens ont un téléphone portable, mais seulement 30% des gens ont accès au réseau électrique. Donc, c'est-à-dire que la moitié des gens qui ont un téléphone portable n'ont pas de prise chez eux pour charger leur téléphone portable. Donc, la plupart de ces gens-là, la plupart n'ont pas de système solaire performant, donc la plupart de ces gens vont dans des kiosques, dans des villages électrifiés ou dans des villes pour recharger leur téléphone portable, et ils vont payer environ une vingtaine de centimes de francs pour la charge de téléphone portable, ce qui est en fait énorme, parce que si on regarde d'un point de vue coût de l'électricité, une vingtaine de centimes pour 10 watt-heure, ça fait $20 le kilowattheure. Donc, si on regarde le coût de l'électricité, ces gens-là payent leur électricité pour charger leur téléphone portable 100 fois plus que ce que nous, on paye en Suisse.
Et avec votre batterie, avec votre produit, à combien est-ce que ça leur reviendrait?
Alors, ça va leur revenir autour des 10 centimes par charge de téléphone portable. Donc, ça reste plus cher que s'ils avaient accès au réseau électrique. Mais c'est déjà meilleur marché que les solutions actuelles, et ça va leur permettre de pouvoir charger leur téléphone portable chez eux.
Et quelle est la durée de votre batterie, que ce soit pour un portable ou pour une lampe?
Alors, ça sera environ 4-5 heures pour la décharge de téléphone portable. Donc, on va dimensionner pour que ça corresponde à une soirée d'éclairage ou une charge de téléphone portable. Après, ils peuvent toujours en permanence rechanger les consommables. Donc, je dirais qu'en fait, on peut toujours augmenter la durée de la batterie en remettant des nouveaux consommables à l'intérieur.
On l'a aussi entendu dans le reportage, donc des essais ont eu lieu en Afrique. Comment est-ce que votre produit a été accueilli là-bas?
Oui, alors, dans un premier temps, on avait déjà fait un peu une sorte d'enquête de marché où on faisait une démo avec un prototype, montrer comment ça marchait, s'il y avait de l'intérêt ou pas, combien d'argent est-ce qu'il sera payé pour ça. Et après, dans un deuxième temps, on a fait un test donc en 2018, vraiment sur le terrain, où là, on a donné trois prototypes à différentes familles, puis on regardait si elles l'utilisaient, comment elles l'utilisaient. Parfois, Briac retournait un peu en surprise chez eux, voir s'ils l'utilisaient vraiment, puis pas qu'ils la mettent dans un coin de la maison. Et je dirais que c'est vrai que c'est bien accueilli. Les gens sont très curieux, très surpris, parce qu'il y a un petit côté magique de générer d'électricité avec du fer. Et on a vraiment eu un bon feedback. Et c'est vrai qu'on a vu que les gens utilisaient nos prototypes. Et c'est vrai qu'il y a même une des familles, à la fin du test, quand on a repris les prototypes, il y a même une des familles qui était triste qu'on reprenne le prototype et qui disait non, mais ouais, revenez vite avec un meilleur produit. Donc c'est vrai que ces tests sur le terrain, ça nous donne beaucoup de motivation à aller plus loin et à pousser le projet plus loin.
Vous dites cette phrase, nous sommes les Nespresso de l'énergie. Ça en dit long sur votre business model. Ce qui va vous rapporter de l'argent, finalement, c'est la vente de consommables et non pas le réservoir, l'appareil en tant que tel.
Alors, c'est les deux. Donc, il y a deux sources de revenus. Une qui sera la vente du produit et une derrière la vente des consommables. Après, c'est vrai qu'on veut garder les consommables abordables aussi pour les gens. Donc le but, c'est vraiment de générer du revenu pour avoir une entreprise qui soit fiable, mais tout en ayant une solution pour ces gens-là qui soient meilleur marché que les solutions actuelles.
Mais la plupart de votre chiffre d'affaires se ferait sur la vente des consommables plutôt que sur l'appareil en tant que tel.
Je tiens plutôt sur la vente des consommables, oui. Après ça, c'est aussi quelque chose qu'on va déterminer avec les ventes pilotes. Qu'on détermine, je dirais, ces deux prochaines années, comment ça évolue, comment les ventes pilotes marchent ou pas, et voir comment jouer avec les prix des consommables et le prix des produits pour avoir quelque chose qui soit à la fois rentable et accessible pour ces gens-là.
Pour que le coût d'achat soit faible, le coût de production doit l'être aussi. Où pensez-vous produire vos batteries?
Alors, tout à fait. Donc, coût de production doit être extrêmement faible parce qu'il y a aussi un coût important qui va aller dans la distribution. Si vous voulez avoir votre produit qui va jusqu'au dernier village dans la brousse africaine, forcément, c'est un coût au niveau distribution. Donc, ça doit être le coût de production doit être très faible. Et donc, on envisage de produire les produits en Afrique. C'est vraiment ce qu'on envisage. Après, il y aura certaines pièces, on va dire, certaines pièces du produit qui sera très probablement produit en Asie pour des questions d'industrialisation qui ne sont pas forcément présentes en Afrique.
Après les essais, vous prévoyez désormais de commencer le mois prochain déjà les ventes pilotes en Tanzanie. Récemment, vous avez lancé une campagne de financement participatif. Votre objectif était de récolter 35 000 francs. Il est largement dépassé. Vous en avez obtenu plus de 50 000. Vous vous attendiez à un tel succès?
Oui et non. Alors, je dirais que au début, on avait un peu de la peine à gagner en visibilité et on se posait un peu des questions si on allait réussir. Et en même temps, les gens adorent notre projet et c'est un projet assez porteur dont souvent les gens sont prêts à contribuer un peu par rapport à ça. Donc je dirais oui et non. Mais on était contents en tout cas du résultat de ce crowdfunding.
Maintenant, place donc aux ventes pilotes. Comment ça va se passer? Où votre produit sera vendu?
Donc, ce qu'on a levé avec le crowdfunding, c'est 50 000 francs, ça va nous permettre justement à finaliser le développement produit, à commencer un peu l'industrialisation et faire ces projets pilotes en Afrique. Donc, Briac va retourner déjà en Tanzanie dans 2 semaines. On va commencer d'abord avec un petit projet pilote avec une dizaine de prototypes cette fois, où là, les prototypes seront donnés aux gens, mais derrière les consommables seront vendus. Donc là, ça nous permettra déjà de tester ce modèle de consommable, de voir si les gens rachètent le consommable, ce qui veut dire qu'ils sont satisfaits par nos prototypes et par le concept. Et derrière, après, on va faire des plus grandes ventes pilotes avec d'abord une centaine, puis après, si possible, 1000 produits vers la fin de l'année.
Le financement participatif, ça suffit? Ou est-ce qu'à plus large échelle, vous êtes à la recherche d'un investisseur?
Oui, alors ça ne va pas suffire, ce crowdfunding. Donc on cherche déjà des investisseurs. Dans un premier temps, on cherche 600 000 francs pour cette année, pour vraiment, je dirais, lancer un peu la première petite commercialisation en Afrique. Et dans un deuxième temps, si on veut commercialiser à plus large échelle, ça sera plus pour l'année prochaine. On aura besoin d'environ 3 millions pour vraiment lancer la commercialisation à plus large échelle dans différents pays.
Il est temps pour nous d'accueillir la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard. David Lamblet, soyez attentifs, on en reparle dans 2 minutes.
Pile à l'heure.
Ce que vous regardez le plus souvent sur votre montre, sans vous en rendre compte, habitude oblige, les aiguilles.
Si l'on pouvait arrêter les aiguilles.
Ces petits éléments peuvent sembler tout simples, mais ils sont très compliqués à fabriquer. Laurent Weber est le directeur commercial de Weber HMS à Fleurier, une des rares manufactures d'aiguilles de montre en Suisse.
Vu qu'on est présent sur tous les segments de la gamme, on a différents process qui s'adaptent à chaque terminaison des aiguilles et à chaque matière des aiguilles. Parce qu'on travaille sur du laiton, de l'acier, les métaux précieux tels que l'or, les matières exotiques telles que le titane et l'aluminium. Et toutes ces matières-là bénéficient d'un process bien particulier à chaque fois, selon les terminaisons que le client ou la marque demande.
Et selon le produit que le client souhaite, il peut y avoir de nombreuses étapes supplémentaires dans la fabrication d'une aiguille.
Ça peut aller de A à Z, donc une quinzaine d'étapes jusqu'à une cinquantaine d'étapes sur la même aiguille. Et la grosse difficulté, c'est qu'on travaille bien la plupart du temps pièce à pièce. Donc il faut une bonne dextérité, une bonne vue, de la patience, etc., etc. Les différentes opérations de finition, de mise en couleur, du polissage, en passant par le rivetage, en passant par de la frappe, de la mise en forme, de la mise en couleur superluminescente, de la mise en couleur par vernis, par décalque, et le conditionnement final, puisque les aiguilles sont encartées pièce à pièce, afin d'éviter qu'elle se raye lors des transports.
En prenant en compte tous ces éléments, peut-on avoir une idée du coût de fabrication d'une aiguille, Laurent Weber, une seule petite aiguille?
Les prix des aiguilles varient en fonction des tailles de lots qui nous sont commandées également, pas seulement à la complexité des pièces, dans l'ordre de grandeur, en moyenne, on sera peut-être à 4 francs dans une aiguille en laiton, qui ira très bien pour du moyen de gamme, à une aiguille qui est complètement usinée dans la masse, dans des métaux précieux avec des faibles volumes, où on arrive à 150 francs l'aiguille, par exemple.
Ni ciel ni pain, jours et nuitées, l'aiguille avant.
Pile à l'heure.
David Lamblet, j'allais vous demander si vous portez une montre à votre poignet. Vous avez retroussé vos manches, je vois que ce n'est pas le cas. Certains disent les jeunes ne portent plus de montre. Vous vous inscrivez dans cette tendance?
Alors, je porte actuellement pas de montre. Après, j'ai une montre, je l'ai laissée chez moi. Et c'est vrai que ça dépend. Ouais, ça dépend des jours. Parfois, je la laisse chez moi, parfois, je la prends pas. Je suis toujours avec mon attel à répondre à des mails, à des messages. Donc, c'est plus souvent au travers d'une attel que je regarde l'heure.
Alors, David Lamblet, on l'a dit en introduction, vous avez 28 ans, les autres membres de la start-up ont tous moins de 30 ans. Récemment, oui. Votre projet a retenu l'attention du prestigieux magazine américain Forbes. Vous avez fait partie du classement européen des moins de 30 ans qui ont eu un impact dans leur domaine, le fameux 30 under 30. Là, qu'est-ce qu'on se dit? J'ai réussi?
Réussi, non, parce que le but de l'entreprise, c'est pas de finir dans des classements, mais c'est dans notre cas, de développer un produit, de le vendre et d'avoir, dans notre cas aussi, notre motivation, c'est d'avoir un impact. Et si on reste dans un classement, mais que notre projet ne va pas plus loin, ça va pas, on n'aura pas l'impact voulu. Donc, on n'aura pas réussi. Après, c'est vrai que ça donne toujours un peu de fierté. Puis, c'est vraiment très utile aussi pour la start-up, parce que ça donne de la crédibilité, que ce soit au niveau personnel ou aussi au niveau du projet.
Vous pensez, notamment, est-ce que ce classement vous a aidé à remporter ce financement, à obtenir la somme nécessaire à ce financement participatif, par exemple?
Je ne pense pas. Ça a peut-être donné un petit coup de pouce. Après, c'est vrai que ce classement a été dévoilé, si je me souviens bien, à la fin du crowdfunding. Ou juste après, il me semble, à la fin du crowdfunding. Donc, je ne pense pas que ça a forcément beaucoup changé par rapport à ça, d'autant plus que la plupart, en fait, de notre soutien sur le crowdfunding a été réalisé en Suisse, en France et plus généralement en Europe.
David Lamblet, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de Sortie de boîte. Merci aussi à Yannick qui était à la technique. L'intégralité de cette émission sera disponible tout à l'heure sur notre site internet. La semaine prochaine, Sortie de boîte s'intéressera à l'entreprise horlogère Edox. Alexandre Rosset recevra son directeur, Alexandre Strombini.